Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 13h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonjour à tous et bienvenue pour le 218e Comics Weekly. Nous sommes le jeudi 23 octobre. Et au sommaire de ce soir, du décès de l'Indé et du Marvel pour notre émission sur les reviews des sorties comics VO, avec notamment la sortie d'Arkham Manor, la nouvelle série dans l'univers Batman, mais aussi Deathstroke ou encore Multiversity et Superman. La partie Indé reviendra sur pas mal de nouveaux projets comme Father's Day, comme 13 Coins, Memetic, ou encore un crossover entre Teenage Mutant Ninja Turtles et Ghostbusters. Et enfin, la partie Marvel parlera de Wolverine Legacy, de Axis évidemment, mais aussi des All New Invaders et des New Warriors. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir pour vous parler de tous ces nouveaux comics, Bruno.
Oui, salut à toutes et à tous.
Et Mister Anabonné.
Bonsoir à toutes et à tous.
Avec qui j'essaye de varier la voix à chaque fois, mais...
Ah, c'est pas mal.
C'est
bien joué.
Voilà.
À chaque fois, je tombe dans le piège. Hein. Je me dis, putain, c'est quelqu'un d'autre qui me présente.
C'est la méga classe alors que mon briquet se casse la gueule. Ouais. On va démarrer tout de suite notre programme de ce soir avec la sortie attendue de Arkham Manor, une autre des séries nouveautés dans l'univers de Batman. Benny, tu vas nous présenter ce nouveau titre.
Bah oui, attendu, paraît-il. Donc j'ai essayé ce nouveau titre surtout parce que c'était marqué numéro 1 et je me suis dit allons-y. Donc Gary Dugan est au scénario et Sean Crystal est au dessin. Avec une colorisation de Dave McKeag. Essayez de pas faire de blagues. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah alors donc, pour resituer le pitch, hein, on est après Batman Eternal numéro 30. C'est stipulé, au crédit, hein, c'est bien marqué. D'ailleurs, je sais pas où on en est dans les Batman Eternal.
29, je crois. Je suis très malin.
Ouais, ok. Oui. Toujours est-il que le pitch est assez simple. Le Wayne Manor a été transformé en Asile d'Arkham. C'est-à-dire que l'Asile d'Arkham a été détruit et Bruce Wayne a décidé de faire de son ancien manoir, le nouvel Arkham pour recueillir un peu tous ces fous et peut-être leur donner un lieu encore plus sécurisé qu'avant, puisque de toute façon la Batcave existe toujours. Donc on voit d'ailleurs Bruce Wayne dans sa Batcave dans cet épisode en train d'observer un petit peu ce qui se passe au-dessus et d'ailleurs il a coupé l'accès hein, à sa Batcave, c'est-à-dire que personne ne peut normalement y accéder.
Alors je me permets juste de t'interrompre, oui. C'est pas Bruce Wayne hein, qui a décidé de filer son manoir et de le transformer en Arkham Manor du coup, en nouvelle asile d'Arkham, mais c'est bien le maire qui a réquisitionné l'endroit.
D'accord, mais pendant plusieurs parties de ce numéro, on voit Bruce Wayne en train de dire « Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ?»
Oui, non, en fait, c'est qu'il aurait pu s'y opposer. Il aurait pu essayer de s'y opposer, de ouais. lancer des plaintes, etc. Et avec l'argent dont il dispose, bloquer les choses. Mais apparemment, il est pauvre. Alors ça, j'ai pas ouais. compris. J'ai dû rater quelque chose quelque part.
Ça sera dans Batman Eternal 30. Enfin, je viens de voir la couverture là du 30. On voit Batman devant les portes d'Arkham Arkham Asylum. Qu'il va y avoir sans doute des explications la semaine prochaine. Ce qui est un peu dommage du coup de l'avoir sorti un petit peu en avance comme ça.
Mais oui. Et surtout, voilà, il se dit, est-ce que j'ai bien fait d'accepter alors qu'il aurait pu essayer de s'y opposer en pensant est-ce que son père aurait fait comme ça? Est-ce que voilà, est-ce que la famille Wayne en elle-même se retournerait pas dans sa tombe si elle voyait ce qu'il faisait quoi? Est-ce qu'il avait pris la bonne décision d'accepter de laisser faire les choses?
D'accord, ouais, bah, enfin, de toute façon, on aura plus d'explications sur le pourquoi du comment dans Batman Eternal. Toujours est-il que, c'est assez intriguant comme situation. C'est vrai qu'on se demande comment même ça peut durer comme ça. À mon avis, ça va juste être une période durant laquelle Arkham sera là, hein, parce que je vois pas comment ça peut durer des années, ce truc-là. En même temps, bon.
De toute façon, le maire explique bien cette situation aussi en disant que les autres voisins qu'il y a pas loin du Wayne Manor sont déjà assez loin pour pas être trop emmerdés. Ce sont tous des gens super riches, mais que de toute façon, si ils veulent porter plainte, le temps que les plaintes passent en justice, etc., eh bien, le nouvel asile d'Arkham sera reconstruit et les gens auront déménagé, donc la plainte risque de tomber à l'eau. Donc, en fait, le maire s'en fout, il a réquisitionné le truc, Bruce Wayne s'y est pas des masses opposé, donc il est tranquille.
Puis c'est plus populaire, enfin, c'est surtout aussi une façon pour Bruce Wayne d'écarter, en fait, le danger de la ville, puisque pendant un moment, c'était prévu d'être installé dans le stade de foot, donc au plein milieu de la ville de Gotham, et
c'est ça.
Ça aurait pu dégénérer.
C'est ce que l'on voit au début.
Et pour moi, c'est tellement un concept un peu what the fuck, un peu exceptionnel, à mon avis, c'est un truc à la Avengers Arena, ça va durer 12 numéros, et puis après, on passera à autre chose.
Je suis pas certain. De toute façon, on voit bien, on l'a bien vu dans le Batman 35, que Bruce Wayne avait réintégré, enfin, même dans le 34, une tour en plein centre-ville, comme ça avait été dans les années 70, 80, il était en plein centre-ville. On revient à ce concept-là, quoi. Ouais, Batman plus proche de la ville, moins écarté, moins excentré que dans son manoir.
Je pense que ça va vraiment pas durer, enfin on verra. Toujours est-il que dans cet épisode, donc on voit un petit peu le fonctionnement, l'intérieur donc de ce nouvel asile d'Arkham, avec notamment Batman qui fait un tour du propriétaire et qui se remémore un petit peu les pièces que c'était avant, enfin l'endroit que c'était avant que ce soit transformé en asile. Et c'est assez marrant parce que il est par exemple interpellé par l'un des fous de l'asile d'Arkham qui lui dit ouais il s'est passé des choses ici tu vois comme si ça avait plus de choses que lui alors que à la base c'est sa maison quoi donc ça m'a fait marrer quoi ce petit gag du gars qui lui dit ouais je vois des choses il s'est passé des choses dans cette pièce enfin bon voilà et t'as Batman qui passe à côté l'air de dire ouais c'est ça mais il y a un mystère il y a notamment quelqu'un au fait qu'on retrouve mort qui a apparemment été torturé et aussi un prisonnier qui un prisonnier assez spécial au fait dont on fait la connaissance dans cet épisode il y a une petite dose de mystère c'est intrigant la situation est quand même assez cocasse donc on a envie de savoir où ça va nous mener tout ça. Voilà, enfin moi franchement ça m'a beaucoup plus captivé par exemple que Gotham Academy qui je sais même plus si ça s'appelle comme ça. Si
oui,
ça,
Gotham Academy, mais de toute façon je pense que clairement déjà c'est pas pour le même public.
Ouais non, clairement là
on
là
peut
on
le
est
voir
dans
déjà
un
ne serait-ce qu'avec les dessins.
Ouais, le ton.
Ouais, bah là c'est beaucoup plus adulte. Pas forcément par les dessins mais en tout cas dans l'ambiance hein et dans les thèmes abordés
on sent qu'avec les dessins de Gotham Academy, on s'adresse à un plus jeune public.
Oui.
Ou en tout cas, on ratisse un peu plus large.
Mais là, les dessins sont pas non plus super adultes, hein. C'est
non, mais c'est un peu plus carré, un peu plus anguleux et c'est moins kid friendly, quoi.
Ouais. Mais en tout cas, voilà, quoi. Il y a une ambiance, il y a quelque chose, il y a une âme qui se dégage de ce titre. Bien que moi, je pense qu'on est plus proche d'une sorte d'intrigue gadget. Histoire de faire une série en 12 ou 20 numéros.
La question
c'est un truc sur la durée quoi.
Est-ce que Batman sera dans tous les épisodes ? Il est là pour le premier arc certes, mais sera-t-il là dans tous les épisodes ? Ça l'avenir nous le dira. Moi je suis très content de la prestation de Gary Dugan. J'ai trouvé que le titre est très bien écrit. De toute façon, c'est un auteur qui vraiment ne cesse de me surprendre, plus je le vois écrire et plus j'aime ce qu'il fait. Là, il tient bien le truc et pour moi, c'est clairement ça aurait pu s'appeler Detective Comics en fait. On est dans du détective comics tel qu'on devrait l'avoir, bon, par Manapul et Buccellato, je le trouve très très bien aussi, mais c'est exactement ce que j'attends d'un détective comics. On a une intrigue, un mystère, on a un Batman qui enquête, un Batman qui va faire des choix, on va le voir dans cet épisode-là, qui sont dignes de ce qu'on pouvait voir dans Detective Comics aux grandes heures de ce titre-là. Mmh. Et ça m'a franchement plu, quoi.
Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, j'ai aussi passé un bon moment de lecture. La partie graphique, pour moi, c'est vraiment un gros plus, parce que j'ai beaucoup apprécié le style. Il y a un petit côté Sean Murphy, je trouve, par moment, d'ailleurs, au niveau des visages et des plans.
Je pense que c'est à cause du prénom. Je suis désolé.
En tout cas, toute la partie où on voit la version manoir dans le passé, manoir dans le présent, je trouve que c'est assez bien fait. Et voilà, il y a un petit peu d'humour aussi, donc on sent quand même un peu la touche Gary Dugan, justement avec cette scène par exemple de cette jeune fille qui se fait agresser dans la rue. C'est comme tu dis, ça serait un très bon numéro de Detective Comics. Là, ils veulent centrer l'histoire sur ce nouveau manoir d'Arkham. Effectivement, est-ce que ça va durer longtemps ou pas, je ne sais pas. En tout cas, le choix de Batman à la fin, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et effectivement, ce choix-là risque de ne pas durer très longtemps quand même. J'ai trouvé la dernière page assez superbe d'ailleurs, avec un effet sur le torse. On voit un
Un homme en
visage.
slip, un gros homme en slip.
On voit un homme en slip, mais on voit un visage qui se dessine sur le torse, qui est assez bien fait.
Ah, j'ai même pas fait
Qui
gaffe.
a... Oui, j'avais pas fait attention à ça aussi.
Et c'est assez marquant quand même.
Complètement.
Et voilà.
Complètement, oui. Le coup du visage, tu vois, je suis en train de regarder la dernière page et je l'avais pas vu non plus.
Ouais, et
Ah oui.
donc voilà, je trouve que c'est la partie graphique est vraiment solide et l'histoire pour l'instant est intéressante. Donc bonne surprise pour moi ce premier numéro d'Arkham Manor.
Il y a
Ça
juste
veut
le
dire
coup du Batman
que
barbu quoi qui m'a fait rire,
Ça veut
perso.
dire que Bruno étudie quand même les torses des hommes, hein.
Non
Ce
mais
torse
Bruno a
musclé,
regardé
tu
plus le dessin
Bien.
que nous l'avons fait. On l'a peut-être survolé un peu pour aller vite. Bruno a peut-être eu un tout petit peu plus de temps pour lire ce titre que nous. Voilà, je sais
Ouais.
pas.
Non mais j'ai apprécié la patte graphique. Donc
Moi j'ai tellement été perturbé par ce Batman barbu que voilà, j'en suis resté là.
C'est vrai.
Il y a des planches que j'ai trouvées jolies, enfin des symboles que j'ai trouvés jolis. Le mec qui enlève le W qui est
Oui,
au-dessus de la porte
c'était malin
d'entrée,
ça.
qui le pète pour laisser juste que le petit remonté W faire un A pour Arkham Manor. Enfin, il y a des petites trouvailles qui sont juste des petites trouvailles qui ne changeront pas l'histoire du comic, mais que j'ai trouvé très intéressantes.
Ouais, mais c'est tout ça qui me fait dire que vraiment le Wayne Manor est trop important dans la mythologie et enfin pour tout le monde pour que ce soit un changement permanent. Et puis en
Oh
plus,
bah,
enfin
rien n'est jamais permanent, on le sait.
finalement en plus c'est quand même deux lieux mythiques, Wayne Manor et Arkham Asylum. Donc n'en faire qu'un finalement de ces deux lieux, c'est même un peu
Après,
dommage,
le
c'est
truc,
on
c'est que
perd quelque chose quoi.
de
le
toute façon.
Batman, dans le Batman Eternal 30, a priori, le Arkham Asylum, il s'est fait détruire, quoi. Enfin, où il a l'air d'être tombé dans un trou immense.
Non, non, mais on le voit, la destruction, on la voit sur la première page de ce comic.
Ouais.
C'est pareil, on revoit cette scène. Mais Gary Dugan donne tout de suite la porte de sortie de cette série en disant que ça va être reconstruit. On sait très bien que ce n'est qu'un truc temporaire, ça va être reconstruit. Mais c'est prétexte à faire une histoire, et cette fois-ci, une bonne histoire.
Ouais.
Donc, pareil que Bunny, je suis vraiment beaucoup plus séduit par ce titre-là que Gotham Academy, qui m'a laissé totalement froid.
Ben moi j'ai aimé les deux, donc comme quoi, c'est possible.
Oui, complètement, oui, c'est tout à fait possible. Donc, on va passer aux notes, hein, mais je crois que c'est clair pour tout le monde, c'est un bail, hein,
Un
ce
bail,
titre.
tout à fait.
Bunny?
Oui, un bail aussi pour moi.
Également, un bail. J'ai hésité à en faire mon coup de cœur de la semaine, cependant, j'ai lu que des bonnes choses cette semaine, donc je vais avoir du mal à décerner la palme du coup de cœur. Tout m'a plu, étrangement. Je sais pas. Je devais être dans un bon jour. C'est
Peut-être.
ça, peut-être les jours où je bosse pas avant une émission, peut-être c'est cool. On va passer à la suite, Bruno, qui va nous parler d'une autre sortie de cette semaine. Il s'agit de Deathstroke, qui revient et par une grande équipe, attention.
Bah, une équipe de Tony Daniel au scénario et au dessin, avec à l'ancrage Sandu Florea et des colos de Tomeu Morey. Donc c'est
On
le
se rappelle
retour.
de la dernière fois où il avait écrit un personnage solo, c'était Hawkman, je crois.
Ouais, voilà, c'est ça. Hawkman, ça s'était mal fini. Il avait scénarisé aussi du Detective
Bah,
Comics
ça avait
et du
pas non
Batman,
plus
c'était
très
pas
bien
terrible.
commencé, hein.
Ouais.
Ça avait pas non plus très bien commencé, Hawkman.
Pour le moment, enfin, il nous a pas vraiment marqué Tony Daniel pour sa qualité de scénariste. Par contre, au niveau des dessins, c'est très très propre. J'avoue que le numéro, je l'ai feuilleté et je trouvais qu'il était vraiment très plaisant au niveau graphique. C'est graphique, c'est bien le terme, puisque c'est quand même un comics très très violent. Donc Deathstroke, on sait que c'est pas un enfant de cœur, mais là voilà, c'est vraiment très sanglant. Il y a des décapitations, il y a des têtes qui se font défoncer. Le personnage, voilà, c'est assez extrême. Clairement un comics mature. Par contre, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça quand même assez poussif et pas très original. Alors le pitch, c'est Deathstroke qui est envoyé par quelqu'un qui l'a commandité pour aller tuer un méchant qui s'appelle Possum. Donc il a une sale gueule, je sais pas, il a une sale gueule de Possum quoi.
Un méchant
Et
qui a l'habitude de faire le mort, donc.
ouais, c'est ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a plein de jeux de mots par rapport à ça. Et pour cela, en fait, il va, dans, il va, je crois, c'est à Rome, ou non, c'est en Russie, où il va retrouver une amie à lui, voilà, qui va l'informer sur où se trouve peut-être ce tueur. Et bah, ça va être une grosse, grosse scène d'action. Et tout ne va pas se passer vraiment comme prévu pour Deathstroke, puisqu'il va être face à face à un personnage qui, comme lui, est un facteur auto-guérisseur. Et alors, ça se termine avec une tournure que j'ai pas vu venir et que je trouve assez étrange, un peu Deus Ex Machina, avec un personnage qui, alors peut-être qui avait été,
Un Deus Ex Machina dès le premier numéro, ça pue quand même.
ouais, mais ça a peut-être été, c'est peut-être un personnage qui était introduit avant dans l'histoire de DC Comics, mais une sorte de moine qui a l'air d'avoir des pouvoirs et qui connaît bien Deathstroke et qui va lui faire subir un certain nombre de choses. Qui fait que quand on tourne la dernière page, on dit What? What
C'est
the
Jean-Luc.
fuck? Et donc alors c'est intrigant, c'est-à-dire qu'on a envie de voir après dans le deuxième numéro qu'est-ce qui va se passer avec ce personnage, avec son nouveau statu quo. Et d'un autre côté, ça fait exactement le même effet que le Détective Comics numéro 1, je sais pas si vous vous souvenez, avec cette image où on voyait la tête du Joker qui avait été découpée et on voyait son visage accroché au mur. Là, on a le même type d'effet. Un truc vraiment qui t'en met plein la vue et on se rappelle à quel point la suite de Detective Comics avait été mauvais, donc ça me fait un petit peu peur. Donc pour moi il est vraiment en demi-teinte ce numéro, une partie graphique très réussie mais un scénario pas très original avec une fin peut-être un peu trop over the top et une direction qui m'intéresse, enfin que je trouve peut-être pas très intéressante pour le personnage. Donc pour moi
En
ça
gros,
reste.
tu nous dis que Tony Daniel ne sait faire que des fins de premier numéro ultra, ultra choquantes, quoi.
C'est ça, c'est un peu ça, ouais. Donc pour moi, c'est un check-it vraiment à réserver aux fans du personnage, puisqu'il a de plus en plus de fans avec sa popularité dans les séries comme Arrow et autres. Donc c'est normal qu'il ait eu droit à son titre. Il y avait pas mal de demandes
Bah,
là-dessus.
est-ce que c'est pas redondant avec,
Suicide
avec une
Squad.
équipe où il est, avec Suicide Squad où il est quand même sacrément mis en avant parce qu'il est
Alors,
quasiment le chef d'équipe,
ouais,
quoi.
j'ai quand même trouvé ce numéro de Deathstroke bien meilleur que le numéro 1 de Suicide Squad que j'avais chroniqué. Et qui était vraiment, alors lui, vraiment ultra bas du front. C'est quand même d'un meilleur niveau que le relaunch de Suicide Squad. Donc un check it.
Bien. Alors, on va passer à la grosse sortie de la semaine chez DC, une autre des grosses sorties de la semaine. Il s'agit du Multiversity, nommé cette fois-ci The Just, avec au scénario évidemment Grant Morrison, et à la partie graphique, une partie graphique de très très bonne facture, je trouve, Ben Oliver.
Ouais.
C'est vraiment somptueux, colorisé par Dan Brown et Ben Oliver lui-même. Alors, certes, c'est un peu statique.
Oui.
Enfin, voilà, le style veut ça, mais ça correspond tout à fait à l'histoire. Le résumé, ça va être très très compliqué. On est bien sûr sur une autre Terre, évidemment, puisqu'il s'agit de Multiversity. Et on est sur une Terre où,
La Terre
j'ai envie de
16.
dire, c'est la Terre 16, voilà. Bah, je sais pas
Bah,
où t'as
en fait,
trouvé le...
je viens de découvrir ça sur les couvertures. En fait, on voit sur le côté les numéros des terres et il y en a un numéro qui est en blanc alors que tous les autres sont en gris. Et je suppose que ça doit correspondre à la terre
Ah, bah
sur
oui, c'est
laquelle on
là,
est.
effectivement, c'est ça, c'est
Donc,
ça. Alors, la Terre 16, c'est une Terre où la plupart des super-héros ont passé le flambeau. Vraiment. On retrouve un Batman Damian, on retrouve la fille de Lex Luthor, on va retrouver Chris à la place de Superman, et Connor en Green Arrow, on va retrouver Kyle Rayner en Green Lantern. On est dans une Terre où il n'y a pas eu de New 52, apparemment, surtout.
oui,
Parce que
ça pourrait. Ouais.
franchement, c'est inexpliqué. Enfin, voilà, les New 52 n'ont pas touché cette Terre. On est clairement dans une suite de l'Ancien Monde, ce qui pourrait être une suite de l'Ancien Monde. Et on va assister à... On est déjà sur un monde complètement sans crise. Superman a disparu, apparemment tué par Lex Luthor, d'après ce que l'on pourrait comprendre, mais il est parti en laissant un cadeau. Vous rappelez le projet OMAC? La même chose, mais version Superman, avec des robots Superman qui, de toute façon, interviennent à toutes les crises et empêchent les super-héros de faire leur boulot. Les super-héros sont grosso modo au chômage.
Ouais,
Donc ce
ils
sont
sont
des
chiés.
concepts qu'on a vus dans d'autres séries indées, hein, notamment, mais en tout cas, voilà, c'est pas mal de le voir avec des véritables super-héros d'essai. Et tout commence avec le suicide de Métamorpho. Voilà. Elle se suicide. Est-ce que c'est parce qu'elle en a marre? Est-ce que c'est parce qu'elle s'ennuie? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est justement l'intérêt de ce numéro. On va découvrir ce monde au fil des pages. Et franchement, cette lecture est extrêmement bonne parce que elle a énormément de sous-textes. Je pense qu'il faut la relire 2 à 3 fois pour arriver à tout comprendre. J'avoue que là, j'ai vu des trucs, mais j'ai dû en rater, quoi. J'ai dû en rater plein. Il y a un énorme cassage du quatrième mur. Il y a énormément de petites critiques faites au milieu du comics en lui-même.
Donc tu n'as pas tout compris, quoi.
C'est pas que j'ai pas tout compris, je pense que c'est que j'ai pas tout vu.
Ça, c'est différent, ouais, effectivement.
Après, il y a peut-être des choses que je n'ai pas comprises aussi. Je suis pas Superman.
C'est pas du tout un comics complètement hermétique. C'est pas du tout hermétique comme lecture. C'est juste qu'il y a plein de choses.
Il y a tellement de choses que je pense que j'ai dû en rater. Parce que je dois avouer que celui-ci, je l'ai lu un petit peu vite avant l'émission. C'est le dernier comic que j'ai lu avant cette émission. Et j'aurais peut-être dû commencer par celui-ci dans la matinée et avoir le temps de le mûrir, en fait.
Mais je suis d'accord avec toi. Moi, c'est aussi une très très bonne lecture, effectivement, très très riche. Il y a un petit côté Kingdom Come avec justement ces versions, ces nouvelles versions des super-héros qui ont pris la relève et qui, du coup, là maintenant se retrouvent sans travail. La grosse qualité du numéro, je trouve, c'est la qualité d'écriture de Morrison. Il arrive à bien écrire ces jeunes. Enfin, on a des super-héros hipsters, quoi. C'est vraiment ça.
C'est ça.
Et ils sont devenus un petit peu ils sont fans de mode et tout, ils peuvent plus rien faire pour pouvoir aider la planète, donc ils ont leur pouvoir et ils se font chier. Et on en parlait tout à l'heure avant de débuter l'émission, mais c'est un peu Jupiter's Legacy version DC. Et
c'est surtout Jupiter's Legacy qui est mieux écrit, quoi.
Ouais, voilà. Et cette écriture, ça se ressent aussi avec pas mal d'humour dans les dialogues. Par exemple, toute la relation entre Damian et la fille de Lex Luthor, je trouve que ça se renvoie bien la balle. Il y a pas mal de réparties
relation amour-haine, un petit peu psychotique, une relation autodestructrice.
Ouais.
Clairement assumée. En plus, ils le savent l'un comme l'autre qu'ils sont en train de s'autodétruire l'un et l'autre.
Voilà. Et puis une écriture mature. Ça parle de suicide. On voit des personnages qui s'apprêtent à faire du sexe. On voit des gens qui sont à faire du sexe.
À faire l'amour tout nu.
Ouais, c'est ça.
Non, en costume parce que c'est plus sexe.
C'est plus sexe. Il y a des gens qui essayent de survivre après un drame. Et il y a toujours, quand même, mine de rien, ce fil conducteur qu'on a depuis les premiers numéros de Multiversity, avec ce fameux comics qu'on a pu voir dans tous les numéros, et qui a l'air d'avoir des pouvoirs et d'influencer l'histoire, quoi. Et
c'est ça qui est intéressant, c'est que l'histoire avance. C'est-à-dire qu'on peut les lire un petit peu indépendamment, mais si on les lit dans l'ordre, on sent que l'histoire avance peu à peu, quoi.
À un moment, Damian est en train de lire le numéro précédent de Multiversity, celui avec la Société des super-héros, par exemple. Et effectivement, tout le sous-texte sur le rôle des comics et est-ce que c'est un art ou non, est assez intéressant.
On a aussi l'évolution du média en lui-même. Le côté Grant Morrison adresse une petite plainte quand même aux comics en général, qui devient de plus en plus gritty, de plus en plus sombre, et notamment... C'est ça qui est très drôle, parce que tout est mis en relation. Tout ça est dit surtout par la bouche de Kyle Rayner.
Oui, oui.
Kyle Rayner, qui est bien le Kyle Rayner que l'on connaît de l'ancien monde, celui qui a bien eu sa petite amie dans un frigo, quoi.
Oui, il y fait souvent référence, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est amusant, à un moment, il parle effectivement aussi de son envie, à un moment, d'avoir été un dessinateur de BD, chose qu'on a revue plusieurs fois dans son histoire, quoi. Et donc, on sent que Morrison, il maîtrise bien sa continuité, ses connaissances.
On sent surtout que les New 52 le font chier et qu'il nous revient à l'ancien monde, quoi, à l'ancien monde, vraiment.
Et on sent que c'est un travail qu'il avait élaboré bien avant le début des New 52. Donc,
clairement.
Il a pas décidé de revoir sa copie, ou peut-être de changer 2-3 trucs, mais il est clairement sur une suite. De toute façon, on en avait parlé déjà, c'est un peu la suite de Final Crisis. Hein, donc,
on a un moment... Excuse-moi, vas-y Bonnie, je t'en prie.
J'ai envie de vous poser la question, est-ce que Grant Morrison ne fait pas un petit peu son Watchmen avec ça?
Mais il pourrait limite... franchement, ce numéro est bien écrit, j'aurais aimé en voir plus, quoi. Vraiment, de cette histoire, j'aurais aimé en voir plus. Il y a tellement de choses drôles...
Mais avec l'ensemble de Multiversity, hein, j'entends, pas que ce numéro, en fait.
Mais de tous les numéros qu'on a lus, pour le moment, celui-ci, c'est vraiment celui qui se détache le plus pour moi en termes de qualité d'écriture. C'est peut-être parce que on parle d'un univers que je connais je vais pas dire à fond parce que que je connais bien. Il y a énormément de relations avec les personnages. Franchement, c'est lisible par un débutant d'essai, mais il va mais il va passer à côté de plein de trucs, quoi.
Mais c'est aussi
quelqu'un qui a de l'expérience dans le monde de DC va adorer parce qu'il y a tellement de petites références à tout ce qui a disparu depuis les New 52.
Ouais, au final, je pense qu'il te plaît plus que les deux autres parce que c'est celui qui est le plus écrit où il y a peut-être le moins d'action, on va dire. C'est vraiment des dialogues, et au final il y a beaucoup moins d'action que dans les deux précédents. On avait quand même une grosse bagarre dans le premier et dans le deuxième une sorte d'attaque entre deux planètes, deux multivers, deux univers différents, je veux dire.
Mais là, les autres étaient bien aussi, hein, clairement, mais
ça se complète bien.
Je sais pas, et vachement mieux, quoi. Je le trouve mieux. Et c'est peut-être aussi parce que j'ai pas lu de Jupiter's Legacy depuis un moment et que je suis content de retrouver l'histoire. Mais qui trache encore un peu. J'ai bien aimé. Il y a une séquence où Chris, qui est donc le nouveau Superman, et Damian discutent d'une aventure de Chris dans l'espace avec Sandman. Et Damian dit le Sandman de Neil Gaiman. Enfin, on a vraiment des mélanges. On sait même plus. Enfin, c'est des moments à la Deadpool, quoi. On sait plus si on est dans le comics, si les personnages nous parlent et connaissent leur propre existence en format BD. Enfin. C'est pas que c'est incompréhensible, mais chacun peut y aller de son propre avis, quoi.
Ouais. Non, mais très très bonne lecture.
Ouais, excellent numéro, quoi.
Donc un gros bail pour un numéro oversize, mais à $5.
Ouais, puis qui met un petit moment à se lire en plus, hein, parce qu'il est quand même malgré tout, il y a quand même pas mal de dialogues et même si le côté statique et le découpage en assez grosses cases, parce qu'on est en général à 4, 5 cases, 6 cases max par page. Mais mine de rien, ça prend du temps à lire, et si on veut essayer de se plonger vraiment dans l'histoire, on prend un peu plus de temps qu'un comic classique, quoi. Au-delà du côté oversize, bien sûr.
Ouais. Donc un gros bail. Hein.
Gros bail aussi pour moi. Hein. Franchement, vraiment très très bonne lecture. J'ai été bluffé par ce numéro, vraiment. Et je t'encourage, Benny, à le lire le plus rapidement possible.
Ouais.
Le mec il n'y croit pas une seconde.
Ouais, j'y vais de ce pas d'ailleurs.
Mais non, t'as avant, une d'y aller, avant d'y aller, parle-nous quand même de l'autre sortie de la semaine, le Superman de Jeff Jones et Romita, le numéro 35.
Oui, alors autre sortie de la semaine, je ne sais pas, mais en tout cas, nouvel épisode par Jeff Jones, John Romita Jr. et Klaus Jensen. Avec toujours cet arc où Superman est en tandem avec Ulysse. Ulysse revient. Et Ulysse, il est pas très content de lui parce que il pense avoir tué quelqu'un. Or, Superman lui fait comprendre que la personne en question était déjà morte avant son intervention. Et Ulysse a de plus en plus de mal avec les humains et avec leur prépension à la violence et au fait que de toute façon ils utilisent tous des armes et bah en gros il voit vraiment les terriens, les humains comme des gros barbares et il aimerait bien qu'il n'y ait plus d'armes du tout sur Terre et ça arrangerait bien les choses. Donc lui et Superman font face à The Machinist, hein, qu'on voit depuis quelques numéros.
Oh là là, même quand il n'est pas dans des films d'essai, il est quand même là, ce Christian Bale.
Pourquoi tu dis ça?
C'est référence au film.
Oui, 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 oui. Ok. Mais toujours est-il que, au fait, Ulysse, de plus en plus, donc, développe une espèce de... pas de haine, mais en tout cas un certain ressentiment vis-à-vis de notre manière d'être et de faire les choses. Et du coup, par exemple, il dit à Superman, bah pourquoi on élimine pas toutes les armes qu'il y a sur Terre, à nous deux, on pourrait le faire, et puis comme ça, les humains, ils pourront plus se battre puisqu'ils auront plus d'armes. Alors Superman lui fait comprendre que bah non, c'est pas comme ça qu'on fait, puisque faut que ce soit une décision qui vienne des humains et pas qu'on les force en leur retirant toutes leurs armes qu'ils ont à disposition et que voilà quoi, c'est pas une manière de faire. Et du coup, bon, alors mis à part ce combat que pas super passionnant, qui fait quasiment l'intégralité du numéro contre The Machinist, avec toujours un autre ennemi dans l'ombre qui observe.
Non,
c'est pas Batman. Mais par contre,
Christian Bale est capable de jouer deux rôles en même temps.
Ouais, mais c'est pas lui. En tout cas, il y a un cliffhanger plutôt intéressant. Avec Ulysse qui au fait fait carrément une proposition aux Terriens et je dirais que ça me rappelle le premier arc de Mark Millar sur les Fantastic Four. Voilà. Il y a vraiment un gros côté dans le scénario qui me fait penser à ça. Alors, il y a quelque temps, Geoff Jones disait qu'il allait aller dans une direction qu'on n'avait jamais vue auparavant dans Superman.
Ah bah
Bon, pour le
on le
moment,
sait qu'au numéro 38, déjà tout change.
mais pour le moment en tout cas, bon, je sais pas quelle est cette direction qu'on n'a jamais vue auparavant. Le cliff est assez intéressant, bien que je peux déjà entrevoir plusieurs possibilités pour que ce soit. Pour que ce soit réglé, donc bon, peut-être qu'il va changer après ce premier arc et que bon, ce sera plus du tout question d'Ulysse et qu'on va passer à autre chose. En tout cas, bon, c'est plaisant, mais voilà, ça révolutionne pas non plus l'univers de Superman pour le moment. Mais en tout cas, il y a un bon cliff, donc ça donne envie quand même d'aller voir la suite. Moi, je dirais que c'est un petit bail cet épisode.
On va terminer notre partie d'essai avec les TP. On démarre avec Neil Gaiman dont on parlait précédemment. Annotated Sandman Hardcover Volume 3 sort. C'est donc une version où on a des annotations, des explications de texte, des explications de comment a été créé, ont été créées les choses. C'est au prix de $50 et ça reprend les épisodes 40 à 55 de la série Sandman, ainsi que le Sandman Special numéro 1 et la petite histoire en quelques pages qui a été publiée dans Vertigo Winter's Edge numéro 3. C'est donc quasiment la même édition que le Sandman Hardcover volume 3, mais cette fois-ci en version annotée. $50 donc pour qui a envie de lire Sandman avec des explications. Nous avons aussi en version deluxe chez DC la mini-série en 6 parties de Frank Miller Ronin, qui est republié au prix de $30. Alors peut-être ils espéraient justement refaire un petit coup par rapport à ce qui devait être fait sur Syfy. Et d'ailleurs, j'ai un doute si cette série se fait encore, Ronin. Je sais pas si vous vous en rappelez.
Je crois qu'on en avait parlé, mais ouais, on n'a pas eu d'infos depuis.
Je me rappelle plus si elle avait été prise dans les sweeps en tant que mini-série ou si elle avait été annulée. J'ai un doute au moment où on enregistre cette émission. Et enfin, la sortie du cinquième TP de All Star Western, une série qui ne sort pas en français, au prix de $17, avec les épisodes 22 à 28, avant-dernier TP, puisque la série s'est arrêtée au numéro 34, plus le petit numéro Future Zen, je crois. Ah, je sais même pas s'il y avait un Future Zen pour All Star Western, j'ai un doute maintenant, là aussi.
Il y a eu un Booster Gold, en fait, mais...
À la place, oui, d'accord. Donc, de toute façon, il reste, quoi qu'il arrive, un TP et la série sera terminée. Voilà, justement, tu parles de Booster Gold, c'est justement ce qui fait suite à cette confrontation de Jonah Hex avec Booster Gold, où il est transporté dans le présent.
Ok.
Avec en guest star, notamment des gens comme Batman, comme Constantine, comme Superman,
C'est qui
etc.
Batman?
C'est Christian Bale.
Ah, Batman.
C'est Bruce Wayne. Oh, le spoil!
Spoil!
Allez, on va démarrer notre partie indé maintenant, et c'est toi, Bruno, qui va ouvrir avec un titre qui s'appelle 13 Coins.
Oui, c'est un titre dont j'avais parlé déjà il y a quelque temps, mais là, du coup, il a droit à une sortie en version papier. C'était un titre qui était dispo en digital sur une application iPhone, je crois. C'était pas dispo sur tous les types d'appareils, et c'est un titre de Simon Bisley au dessin. Donc voilà, si vous êtes fan de Simon Bisley, vous allez kiffer parce que c'est magnifique, avec des dessins de Martin Brennan et pardon, avec une histoire de Martin Brennan et Michael B. Jackson. Voilà, donc pour les dessins, c'est que du Bisley, et c'est une histoire un petit peu à base de fantasy, dans le sens où on a eu aller, enfin dans le passé, une grande guerre entre les anges, Dieu qui décide de choisir un certain nombre de protecteurs de la terre, des anges déchus qui affrontent ces protecteurs de la terre, de là le chef des anges déchus est capturé, sa chaîne en fait est récupérée par ses sbires, et de ces maillons de sa chaîne en fait il y a une prophétie qui dit que si les maillons sont retrouvés, du coup le suppôt de Satan reviendra et détruira la terre. Et donc ils ont transformé la chaîne en des petites pièces, ce qui sont les 13 pièces qui donnent le nom aux comics. Et donc ça c'est dans le passé, et dans le présent en fait on va suivre une équipe de flics, on dirait des flics au départ, mais ils sont portés dans l'occulte, donc ils doivent être au courant de toute cette prophétie, et ils sont opposés à des sortes de gangs un peu démons, et beaucoup d'action, pas mal de morts, une mise en scène vraiment vraiment très sympa, et une qualité de mise en page et de papier vraiment qu'on peut noter pour un comics qui est édité chez Titan. Donc ça fait plaisir de le voir en version papier. Si vous aimez bien un peu les comics à la Hellblazer, vous retrouverez justement Bisley qui a fait quand même beaucoup d'Hellblazer, vous retrouvez un peu son style à ce niveau-là. Donc voilà, pour moi c'est un bail, c'est une mini-série qui sera en 6 numéros.
Très bien. Continuons avec de l'anglais, toujours, puisqu'il s'agit de Mark Millar, la sortie du 6e épisode de Starlight.
Oui. Mark Millar, donc, au scénario, Goran Parlov au dessin, et Ive Jvortina est à la colorisation. Voilà, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais il y a des chances, hein, effectivement. On y croit. Et donc, dernier numéro, hein, malheureusement, de Starlight, qui était pourtant très très bon et qui malheureusement s'achève. Alors, y aura-t-il un deuxième volume? J'espère qu'un jour on aura une suite, parce que c'est vraiment un univers que j'ai adoré. Donc là, on s'en doute, hein, tout va rentrer dans l'ordre, les méchants vont périr des mains des gentils, et Duke McQueen va retourner sur Terre. Et c'est surtout au fait ce moment où il va retourner sur Terre qui est jouissif quoi, qui est très très drôle. C'est retrouvailles avec la Terre et au fait la manière dont il va rentrer chez lui. Enfin voilà, je vous laisse découvrir ça parce que franchement c'est hilarant. Non mais c'est surtout très très bien écrit. C'est assez touchant, assez poignant mine de rien. De quitter ce personnage et de quitter aussi les autres personnages qu'on a découverts hein, récemment comme Tilda ou comme ce jeune protégé dont j'ai oublié le nom d'ailleurs le jeune héros de cette série avec Duke McQueen. Toujours est-il que voilà, c'était vraiment une série plaisante. Un bon travail de Mark Millar, loin de choses qu'il a pu faire auparavant un petit peu enfin, quand c'était un petit peu de la violence gratuite, là, c'est tout le contraire. Hein, c'est
On est
vraiment.
plus proche d'un supérieur que d'un Kick-Ass, quoi.
Oui, on est plus proche d'un supérieur que d'un Kick-Ass. On est même encore plus proche d'un truc que je laisserais. Enfin, franchement, je laisserais des enfants lire ça. Hein, c'est pas violent, quoi. Il y a pas de. C'est pas. Voilà, c'est il n'y a pas de choses vraiment que à ne pas mettre entre les mains de jeunes lecteurs, je trouve. Bon, alors, il y a toujours oui, aussi il y a quelques petits gros mots peut-être par-ci par-là, hein, mais c'est ça reste léger, hein, franchement.
Oh, qui n'en dit pas, putain.
Oui, voilà, c'est ça. Exactement, exactement. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui voient carrément pire en jouant aux jeux vidéo, parce que jeux vidéo, faut le dire, hein, c'est pas bien.
C'est le mal, c'est le mal, c'est Satan incarné.
Famille de France, tout ça, si tu nous écoutes.
Faisons-nous des amis.
Voilà. Non, mais en tout cas, très très bonne série, très bon final. Trop court, hélas. J'aurais espéré que ça
C'est ce
concurrence
que
un
te dit
petit
tout le temps ta
peu.
copine, non?
Non.
Oh, ça.
Non, non. Et
C'est facile.
voilà. Je ne ferai pas plus de commentaires. Toujours est-il que. Ben voilà, enfin c'est dommage que ça s'arrête là, puisque je pensais pendant un temps que ça pouvait même perdurer un petit peu aux côtés de Saga enfin moi vraiment c'était un truc à la Saga qui me plaisait quoi. Et malheureusement ça s'arrête.
Rappelons que c'est cette série qui devait lancer le Millar World, ben non, le Millar Universe.
Ouais, alors ça on n'en parle plus du tout.
Oui, on
Il
n'en
fait
parle
de
plus.
la
Bon, de toute
pub.
façon, en même temps, vu que les comics ne sortent pas.
Il fait de la pub pour ses autres séries quand même, comme MPH, hein, voilà, dont le numéro 4 sort actuellement, je crois, ou est sorti récemment. Mais
Le numéro 4 est pas encore
non, ouais. Il y a le
sorti.
3 qui est sorti il y a pas longtemps.
Le 3 est sorti il y a pas longtemps. Je
Bah là,
crois que
on
c'est
a
une
les
série qui a
couvertures.
pris un petit peu de retard, hein, MPH aussi, pour une série où les gens vont vite.
Oui.
Voilà. C'est dommage. Et
Peut-être qu'il a déjà dans l'idée de faire un préquel, tu sais. Voir une suite.
Réécouter le Weekly News hein, si, pour comprendre de quel préquel on parle de ces séries.
Mais en tout cas, je verrais bien un film Starlight, quoi. Un petit peu un film à la
Mais
Gardien,
ça a été
ce serait
optionné
juste
hein,
génial.
De
Ouais.
mémoire.
Bah écoute, en tout cas, j'ai hâte de voir ça un jour, si jamais ça se fait. Voilà. Très très bonne série, c'est mon coup de cœur de la semaine, et hélas, ça se termine, mais bon. En
Mais
tout cas,
ce qui est dommage, c'est voilà, le mec nous vantait son Miller World ou son Miller Universe, je sais plus comment ça s'appelle, à grand renfort de com, hein, comme il sait si bien le faire, parce que de toute façon, en même temps, à part la com chez Mark Millar, il n'y a pas grand-chose derrière. Je vais, enfin, franchement, voilà, trachez-moi si vous voulez, mais ouvrez les yeux un petit peu. Le mec sait faire que de la com.
Il
Et
fait des
du
bons
coup,
comics, mais
quand il veut,
ouais.
ça dépend. Et le problème, c'est que voilà, son univers s'écroule. Oui, on va faire un univers qui sera meilleur que Marvel. Vous verrez, Marvel, ça va être du pipi à côté de nous. Ah bah ouais, super. Déjà, sors tes comics et puis après on en parle, quoi. Je sais pas. Moi, j'ai que ça à dire. Le
On
mec a de
dénonce.
la gueule, mais ne montre
Putain,
rien, quoi.
comment on dénonce, comment on a jeté un pavé dans la mare là?
Non, mais enfin, je sais pas. Il y a encore
La
des
mare,
gens
elle
qui
déborde.
croient. Il y a des gens qui croient encore en ce mec, quoi. Je dis pas qu'il a pas de talent, hein, loin de là. Il en a prouvé de maintes occasions qu'il avait du talent. C'est juste qu'il faudrait qu'il arrête d'ouvrir sa gueule et qu'il écrive un peu ou qu'il choisisse des artistes plus rapides. Je sais pas.
Wesh.
Il y a un moment, faut aussi sortir les comics et pas dire que moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, quoi. C'est
Voilà.
dommage, c'est dommage. Alors, il écrit des très bons trucs, hein, comme Starlight. Et puis, il en écrit d'autres qui ne sortent pas, comme Jupiter's Legacy.
Ouais. En toujours est-il que pour ceux qui seraient passés à côté de Starlight, TPB, hein, TPB et Starlight, vous allez passer un excellent moment à la lecture de cette saga intergalactique. Voilà. Et c'est bourré d'humour, c'est frais, c'est fun, c'est ce qu'on veut lire plus souvent. Et voilà, donc c'est mon coup de cœur de la semaine, ce dernier numéro.
Eh bien, nous allons faire le grand écart maintenant. On va parler d'une série Dark Horse, une mini-série pour être exact, en 4 épisodes, qui s'appelle Father's Day. Et alors là, on est tout sauf dans le galactique, dans le grandiloquent, le spatial, le à pouvoir. Non, on est dans un truc totalement terre à terre, un gros thriller hyper orienté action. C'est écrit par Mike Richardson, hein, qui est le CEO de Dark Horse. Et on a au dessin Gabriel Guzman. Et tout commence par un homme dans sa petite maison, sur la plage, qui, au lieu d'écraser une araignée, la prend dans un verre et la met dehors. Tout va bien, la vie est belle, c'est très joli, il y a de la couleur partout, il est franchement bien installé. On frappe à sa porte, c'est une jeune fille qui commence par lui mettre un espèce de poing dans le bide, qui l'insulte de tous les noms, parce qu'en fait, c'est sa fille qui l'a
C'est la
retrouvée.
fille de l'araignée.
Oui, c'est ça, la fille de l'araignée.
Qu'il a foutu dehors dans un verre.
C'est sa propre fille qui vient le voir parce qu'il les avait abandonnés il y a de ça 10 ans. Et elle est venue chercher des réponses et lui dire que bah sa femme est morte, voilà. Et que c'est un gros enfoiré de s'être barré comme ça. Sauf que les choses sont peut-être un petit peu plus compliquées que ça, et peut-être que son départ n'était pas de son fait réellement, et c'est ce que l'on va découvrir dans ce numéro. Ça va à 100 à l'heure, Bruno.
Oui, tout à fait. C'est très plaisant, c'est bien écrit. Effectivement, on part d'un pitch assez simple, mais très vite ça se développe en thriller. Et le côté action est vraiment bien bien mis en avant avec des scènes de baston assez réussies et avec un petit twist à la fin où que je m'attendais pas en fait, avec un personnage féminin qui peut-être en a sous le coude. Donc
Un personnage féminin qui en a une paire, tu peux le dire.
Ouais, c'est ça. Et
Dover, évidemment.
les deux personnages, au départ, ça commence mal, mais on sent que ça va faire un bon team-up. Et en fait, comme c'est une mini-série en quatre, je me dis que ça va être sympa de les suivre pendant 4 numéros, parce que, en tout cas, le premier numéro est très rythmé.
Bah si c'est aussi rythmé que ça, c'est cool quoi. Ce qui est bien, c'est que les scènes d'action sont pas over the top. Je continue sur ma vanne.
Jeu de mots.
jeu de mots, attention. Voilà, on a des utilisations d'ustensiles de cuisine comme on a rarement vu dans un comics. Et franchement, enfin voilà, c'est pas too much
C'est
quoi.
le
On n'est
côté un
pas dans
peu
le...
Jason Bourne, ça.
Ouais, mais on n'est pas dans le film d'action où le héros s'en prend tellement plein la gueule que normalement il devrait même plus se relever, il devrait être paralysé à vie, mais que là tout va bien, il essuie la poussière sur ses épaulettes et il repart. Non, non, là ça reste très réaliste, quoi.
On attend la scène avec une explosion et le héros qui marche devant, quand même.
Oh bah on l'a,
c'est
on
vrai.
l'a finalement. Sauf que là,
Il est par
il est
terre,
un
quoi.
peu moins cool. Il est un peu moins cool. Il a regardé l'explosion, quoi.
Mais voilà, la partie graphique, je la trouve assez solide. C'est pas parfait sur toutes les cases, mais c'est quand même assez sympa. C'est pas le point fort du comics. Moi, je trouve que c'est vraiment le rythme, le découpage et le pitch.
Mais ça fait du bien de lire un petit truc terre à terre de temps en temps, quoi.
Ouais, tout à fait. Là, c'est clair que c'est vraiment pas de super-héros, pas de guerre intergalactique. C'est voilà, c'est la fête des pères.
En tout cas, bon petit bail hein, pour ce numéro
Ouais,
1
moi
d'une
aussi.
mini-série en 4, hein, on le rappelle.
Moi aussi, petit bail.
Allons, passe à toi, Benny. On va revenir dans le comics pur et dur, le comics qui nous montre des mondes qui n'existent pas, et heureusement, puisqu'il s'agit de Walking Dead.
Ouais, Walking Dead par Kirkman, Adlard, tout ce petit
Toujours le
monde.
même.
Et oui, et Stefano Godiano à l'ancrage depuis la, le gros event.
Depuis la All Out War.
Voilà, All Out War, j'allais dire House of M, bien sûr.
What?
Non,
House
mais je
of
sais
M
plus
chez
trop.
Walking Dead, what? No more zombies, oh, no
Oh,
more
c'est pas ça.
humans.
Ouais, je sais pas comment il pourrait faire un titre avec House of M. Ça voudrait vouloir dire, ça voudrait vouloir dire quoi, le M dans Walking Dead? Bah voilà, je sais
No,
pas. Ouais.
no more momies.
Ouais.
Et là, l'humanité ne peut plus survivre, plus de maman. Oh
La maison des meurtres, House of Murder.
Why the last man, quoi?
Oui, donc
Ok.
ce Walking Dead.
Oui, donc Carl a reçu une petite lettre d'amour. Ouh, il y a de l'amour dans l'air. Il va enfin peut-être avoir une copine et peut-être même va-t-il enfin se dépuceler. Il serait temps. Voilà.
C'est dégueulasse ce que tu dis, quoi.
Ben oui, c'est dégueulasse, mais c'est la vie et c'est
Tu
aussi
crois que
ça
c'est la
Walking Dead.
préoccupation première quand t'es dans un monde de zombies?
Bah écoute, faut savoir se faire du bien aussi. Voilà.
Ouais, je pense qu'il y a assez de... Non, non, je vais pas aller sur ce terrain-là, c'est trop glissant.
Bon, et ouais, enfin voilà, on assiste à toujours à la petite vie de des quelques survivants, hein, donc il se passe quelques petites choses, surtout avec Carl dans dans cet épisode. Et puis il y a toute une équipe qui sont à chevaux avec leur tenue un petit peu de cavalier là, et qui sont sous les ordres de Rick, qui vont en patrouille pour chercher en fait ce camarade qui avait disparu. Et rappelez-vous, l'un de ses amis était revenu au camp complètement paniqué en disant que les zombies se mettaient à parler. Et ils vont tomber sur ces fameux zombies qui parlent et qui manient des couteaux. Et donc là, au fait, depuis le dernier épisode, on en sait un petit peu plus sur cette nouvelle menace. On sait un peu qu'est-ce que c'est au fait ce truc. Et bon bah les choses vont mal se passer. Un nouvel ennemi donc assez au fait inquiétant, mais je enfin voilà, j'attends de voir où ça va aller parce que est-ce qu'on va pas revenir à un truc un petit peu une menace à la Negan ou un truc qu'on connaît un petit peu. J'attends de voir franchement. Voilà. Bon ça pose des pistes pour le futur. Et ça reste quand même assez intrigant. Même si, au fait, les révélations qu'on avait eues dans le dernier épisode font que l'attente que j'avais par rapport à cet épisode-là était moindre, quoi. Donc bon, bah c'est pas mal. C'est un bon bail comme d'habitude. Ça reste quand même un très bon comic et une série que je dévore à chaque fois, quoi.
On va passer à ton coup de cœur, Bruno. Maintenant, il s'agit d'une série chez Boom. Ah, tiens,
Oui.
c'est étonnant. On a tous nos petits publishers préférés quand même. Il s'agit de Mémétique.
Oui, et c'est écrit par James Tynion, le 4. Et
Et
avec
mémétique, t'écris ça comment? Comme une mémé et puis plus loin tique, c'est
Non.
une mémé qui s'accroche à ta jambe et qui te suce.
Ouais, c'est pas ça du tout. C'est pas ça
Ah,
du tout, mais l'image
espérons
est
qu'elle n'est pas
horrible,
dedans.
je veux l'enlever de ma tête.
Espérons qu'elle n'est pas dedans, Bruno.
C'est mimétique.
C'est dessiné par Eric Donovan. Et donc le pitch, je sais pas si vous aviez vu à l'arrière de pas mal de Comics Boom depuis plusieurs mois, on avait cette image d'un paresseux entouré de couleurs.
À l'arrière de quoi? Comics
Des
Boom.
comics, c'était les
Comics
pages.
Boom.
Oui. Qu'est-ce que tu racontes?
Non
Comics
mais il fait
Boom.
Comics Boom à la Gail. Voilà.
D'accord. Ok.
Enfin,
Bon. Donc en fait, ce comic, ça va s'intéresser au même
Bruno qui
Internet.
voit pas la référence Street Fighter, quoi.
Ouais, mais bon, c'est pas grave. Et donc alors, le pitch, ça commence. On a le personnage principal qui est un jeune, voilà, à l'université. Il a des petits soucis avec son copain, voilà, ça s'est mal passé, donc il essaye de se rabibocher avec lui par internet, mais finalement ça marche pas. Donc là il est un peu dégoûté, il passe son temps à aller sur internet, voir un peu ce qu'il y a sur Facebook et compagnie. Et
Son copain ami ou amour? Parce que enfin c'est
son amoureux. C'est
Son nom, d'accord,
voilà,
ok.
c'est le personnage principal est un personnage gay et voilà.
Oui, peu importe. Non, mais c'est que quand tu dis son copain, justement, enfin, si c'est qu'une relation amicale, ça n'a pas forcément le même impact sur le
Ouais, non, non,
personnage.
non, là, c'est son amoureux. Et en fait, il va tomber sur le site Raddit. C'est pas comme Reddit, mais c'est presque pareil. Il y a une image qui est partagée avec marqué cette image va changer tout. Cliquez dessus. Et donc, il commence à cliquer dessus et il voit ce fameux paresseux
Et il
en.
chope un Trojan.
C'est
Voilà.
presque ça. C'est presque ça, mais c'est pire. Il voit ce paresseux avec ses cercles lumineux autour. Et tout le monde laisse des commentaires en disant ah oh là là, depuis que j'ai vu cette image, tout va bien dans ma vie, je m'en sens super heureux et tout, c'est excellent, je peux pas m'empêcher de le regarder. Et bah le héros lui il trouve pas ça, enfin il ressent rien. Le
Voilà ce que
truc,
c'est d'être daltonien.
et ben voilà, mais le truc c'est ça, c'est que c'est il a des
Oh
problèmes puisque
putain,
c'est
merde, c'était du hasard en plus.
ouais, non, il a des problèmes de vue, c'est-à-dire qu'il n'est pas capable de voir toutes les couleurs, et donc il fait partie des personnes qui sont insensibles face à ce même Internet. Autre personnage qu'on suit dans ce numéro, c'est un ancien militaire qui est à la retraite et qui voilà, il entend parler de ce fameux mème puisque bientôt le mème fait l'actu du journal télévisé comme étant le mème étant le plus diffusé, le plus partagé depuis toujours, quoi. Et en voyant ça, en fait, ça lui rappelle quelque chose, ça lui rappelle les recherches qu'avait fait une de ses collègues dans les années 90, qui disait que peut-être qu'un jour, il y aurait une utilisation militaire de la propagation d'informations comme ça qu'on peut partager sur Internet. Et il se dit que si ça se trouve, c'est peut-être un rapport avec ça. Et en fait, on se dirige vers ça, puisque très rapidement, 24 heures après l'apparition de ce mème, les premières personnes qui ont vu ce sorte de gif animé, eh bien commencent à péter les plombs, c'est-à-dire que leur cerveau s'arrête de fonctionner et ils se mettent, c'est crost quoi, ils se mettent à attaquer tout le monde et voilà. Donc il y a presque 400 millions de personnes qui sont touchées en 24 heures. Et ça, on passe tout d'un coup dans un état un peu post-apocalyptique, avec même le président des États-Unis qui est touché. Et est-ce qu'il va y avoir une explication derrière tout ça? Qui est la personne qui a mis en ligne ce mème? Quel est le but de cette personne? Ben ça, c'est ce qu'on va découvrir après dans les prochains numéros. Mais en tout cas, j'ai trouvé que le pitch était assez intéressant et c'est bien écrit. Au niveau graphique, c'est particulier. Je vous invite à le feuilleter pour voir un peu le style. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais ça a de son charme et c'est un numéro à noter qui est oversize qui est aussi un petit peu plus cher du coup pour l'occasion puisqu'il est à 5$, mais il fait bien 45-50 pages. Et ce sera une mini-série en 3.
Oui,
Donc
c'est du mini en 3, donc vous engagez pas sur grand-chose finalement.
ouais, mais en tout cas très bon pitch et trois personnages principaux puisqu'il y a aussi donc la chercheure des années 90 là qui revient dans l'histoire vers la fin qui sont intéressants à suivre et il me tarde de lire la suite parce que c'est assez prenant. Donc pour moi c'est un bon gros bail et mon coup de cœur de la semaine.
Est-ce que tous les numéros sont oversize ou c'est
Oui,
vraiment que le premier?
c'est trois numéros à 5$, trois numéros qui
D'accord.
font 45-50 pages.
Bien. Continuons avec notre programme indé, notre dernière review. Il s'agit d'un crossover, un crossover que vous avez peut-être attendu quand vous étiez gosse. En tout cas, Bunny a été voir parce que ça l'intriguait. Et pas que lui, Bruno aussi.
Oui.
Teenage Mutant Ninja Turtles en crossover avec Ghostbusters.
Ouais, ça m'intriguait comme tu disais il y a 30 secondes.
Ah, putain, je me suis planté, je m'en suis même pas rendu compte.
Oh non, j'en sais rien. Je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Bon,
C'est
bref.
que j'ai bourré des oreilles, c'est tout.
Ouais, voilà. IDW donc nous propose cette rencontre entre les Teenage Mutant Ninja Turtles, donc les Tortues Ninja hein, chez nous, et les Ghostbusters. Donc la rencontre, effectivement, que j'aurais kiffé voir quand j'étais petit, puisque quand j'étais petit, à 6 ans, je matais tout le temps les Ghostbusters, et puis à 7 ans, j'étais à fond dans les Tortues Ninja. Voilà, c'était les deux trucs, les deux années de suite. Et enfin, 20 ans, plus de 20 ans plus tard,
Ton
le
souhait
crossover.
est exaucé. Quelle belle
Voilà.
jeunesse on a eue quand même.
Et ben
Non mais
oui,
oui, clairement.
franchement, oui, ces séries ne prenaient pas les jeunes pour des cons. C'était quand même pas mal du tout. Tortue Ninja était quand même plus, on va dire,
Plus
plus
enfantin,
gentillet, oui,
ouais.
voilà, plus enfantin qu'un Ghostbusters, mais quand même, c'était pas mal. Donc là, au fait, celui qui organise cette rencontre, c'est Eric Burnham, aidé de Tom Waltz au scénario. Alors, on a différents dessins, hein, on a du Charles Paul Wilson III qui nous signe les premières pages qui sont assez cartoony. Mais ensuite on a du Corey Smith et du Dan Schoening. C'est aussi très cartoony, mais ça fait aussi très dessin animé. Et c'est pas bah, ça correspond bien au fait à l'ambiance hein, de toute façon. Alors c'est des gens qu'on a retrouvés hein, déjà sur les titres correspondants Tortue Ninja et puis Ghostbusters et
Comme Eric
donc
Burnham, hein, qui écrivait Ghostbusters, justement.
exactement exactement. Et donc là le scénario est assez simple, y a une espèce de d'entité qui rencontre Krang, donc l'ennemi des Tortues Ninja, qui est transporté dans une autre dimension. D'un autre côté, il y a les Tortues Ninja avec une espèce de savant fou là que je connaissais pas d'ailleurs, qui est avec eux là, qui est en train de comment dire, de leur
Les aider à construire un portail
voilà, un
transdimensionnel.
portail interdimensionnel, etc. Et il y a une mouche qui vient l'emmerder, et du coup il commence à vouloir jarter la mouche, et bah comme un con, il tape sur un bouton qui est pas le bon, quoi, et ça transporte les Tortues Ninja ailleurs qu'à l'endroit où ils devraient être.
Alors ça, c'est bien le pitch classique d'un dessin animé des Tortues Ninja, le truc un peu con mais qui te fait une histoire, quoi.
Oui, mais en plus, il t'a même, je crois, je sais plus laquelle des tortues, mais t'en as une des quatre qui dit, généralement, ça finit mal quand il y a une mouche comme ça,
Référence à la mouche, hein, le film, hein, d'ailleurs, avec la téléportation et la mouche qui se trouve dans le pod de téléportation.
Exactement, et référence en plus, attention, c'est métaphorique,
Baxter.
c'est un, oui, Baxter Stockman, donc l'homme mouche, hein, des tortues ninja,
Le dessin animé.
voilà, donc il y a une double référence. Mais du coup, les Tortues Ninja et Casey Jones et April O'Neil se retrouvent transportés dans la dimension des Ghostbusters. Donc ils restent à New York, mais ils se rendent bien compte que c'est pas le New York qu'ils ont quitté auparavant.
C'est le
Et
multiverse.
voilà, c'est le multiverse. Et ils font face à cette espèce d'esprit de samouraï, voilà, qu'on a vu au début de cet épisode. Et bah là-dessus débarquent les Ghostbusters, qui prennent les Tortues Ninja d'ailleurs pour des Martiens, et qui sont prêts à faire feu pour régler le problème, quoi, parce que c'est pas normal, hein, voilà. Ils ont des têtes de monstres, hein, de toute façon, ces tortues. Donc ça va être assez marrant de voir la confrontation, puisque au fait le premier épisode s'arrête là. Donc voilà, bah y a plein de choses, hein, y a plein de petites gags comme ça. C'est une lecture plaisante, et franchement, moi j'ai passé un bon moment à lire cet épisode crossover. Bruno, je sais pas ce que t'en as
Bah, si,
pensé.
si, ouais, je trouve ça très honnête. On a ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on achète un comics Tortue Ninja featuring Ghostbusters, et ben on a les deux et ils sont bien mis en avant. Le côté graphique, effectivement, moi ça m'a plu parce qu'il y a la touche Tortue Ninja et la touche Ghostbusters qui est conservée. Par exemple, pour Ghostbusters, c'est vraiment le dessinateur attitré de la série qui a un style vraiment très 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 dessin animé, effectivement. Et voilà, il y a ça. En plus, ça fait. On a l'impression que c'est presque en continuité avec les deux séries. Ce qui est assez amusant, puisqu'on retrouve à peu près les personnages qu'on a actuellement dans la série Tortue Ninja.
Je crois par contre que Ghostbusters vient de s'arrêter, hein.
Il y a encore des numéros qui sortent, mais peut-être que ça va bientôt s'arrêter, effectivement.
Ah, c'est peut-être moi qui ai mal compris, mais je croyais que la série allait s'arrêter, mais c'est peut-être une mauvaise info de ma part.
En tout cas, franchement, c'est
T'es peut-être un
fun.
gros fouteur de merde, hein. Je crois que c'est ça, en fait.
C'est fun, il y a plein de petites références, il y a de l'humour, il y a une bonne, ça fait plaisir. Enfin, comme tu dis, hein, c'est un peu le crossover dont on rêvait quand on était petit. Et voilà, il est devant nous et c'est plus facile d'accès et plus simple que le gros crossover qu'ils avaient fait avec X-Files, qui rencontrait petit à petit
Ouais,
les Tortues Ninja, les
ouais.
Ghostbusters et compagnie. Là, c'est quand même beaucoup
Ouais.
plus grand public
Ah bah c'est pas
et
Infestation ou
fun.
Essexure, il y a pas une histoire vraiment, enfin c'est juste enfin une histoire globale.
Ouais, là c'est vraiment plus le truc fun, les tortues rencontrent les Ghostbusters et bah voilà, ça va se barrer en couille.
Moi en tout cas j'aurais kiffé avoir par exemple le TPB de cette histoire à Noël quand j'étais petit, quoi. C'est vraiment le genre d'histoire que je conseillerais à un jeune public, effectivement. La rencontre de ces deux univers. Alors bon, c'est dommage parce que de toute façon, les gens qui ont surtout connu ces deux univers maintenant ont un petit peu vieilli. Alors c'est
Mais ils
sûr
ont un
qu'il y a
peu
un
notre
nouveau,
âge, quoi.
ouais, il y a un nouveau dessin animé Tortue Ninja. Il y a peut-être des nouvelles choses qui se font autour des Ghostbusters. J'en sais rien, je pense pas.
En
Depuis un
dessin
certain nombre
animé, mais
d'années,
en
je pense qu'il
comics, ça continue. Il y a le
y a. Ouais,
petite mensuelle.
ça continue, mais c'est surtout pour un public nostalgique. Bon. Mais en tout cas, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais petit, et voilà. Donc ce sera en quatre numéros. Et je pense que je vais suivre les quatre. Hein.
Ouais. Moi, je dirais un bon petit check-it pour les fans de Tortue et de Ghostbusters.
Ah,
Ah
juste
bah
un
ouais,
check-it pour les fans?
j'irai pas quand même jusqu'à l'achat parce que c'est fun, mais de là à le garder, voilà, bof.
Bon, écoute, moi je vais pas bouder mon plaisir. Je trouve que c'est un petit guilty pleasure. En plus, pour 4 numéros, moi je suis prêt à donner un bail à ce truc. Hein. C'est vraiment honnête. Non, j'ai vraiment passé un bon moment de lecture. C'est pas mon coup de cœur, certes, mais c'est un bail. Ouais, ça le mérite.
Très bien. On m'a un petit peu partagé dans la vie, mais justement, bah faites-vous votre idée en fonction des goûts habituels de nos chroniqueurs que vous connaissez, que vous suivez et que vous aimez, évidemment.
Oh oui.
Passons au TPB de la semaine, les TPB indés. Petite sélection cette semaine, pas grand chose. Ça fait du bien aussi de se reposer financièrement au niveau des TPB. Nous avons chez Oni Wasteland Apocalyptic Edition Hardcover Volume 4, qui reprend des gros pavés hein, de cette série Wasteland d'Anthony Johnston, qui dure depuis un bon moment chez Oni. Ça va reprendre les épisodes 40 à 52 de cette série, avec donc justement gros volume, grosse édition, très très belle, pour $40. Nous avons chez Dynamite le Red Sonia, deuxième TPB, la série de Gail Simon, avec Walter Giovanni au dessin notamment. Ça reprend les épisodes 7 à 12 ainsi que le numéro spécial 0. C'est au prix de $20. Chez Fantagraphics, nous avons du Usagi Yojimbo en softcover qui sort le volume 7 avec justement des bonnes petites collections pour le personnage de Stan Sakai, hein, ce grand personnage qui existe depuis tellement longtemps. C'est au prix de $18,99. Enfin, pour terminer notre sélection indé, deux bouquins, des petites idées, cadeaux de Noël, hein, comme on essaye de vous en faire dès qu'on peut. Ce sont deux bouquins qui sont sortis chez Titan. On a un Robocop Definitive History au prix de $34,95, qui va parler de l'ensemble de la franchise Robocop, un très bon compagnon à notre podcast qui était quand même bien meilleur, on le sait. Personne réagit, putain, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Qui va parler justement de la franchise, que ce soit les trois premiers films, la série TV, ainsi que la version 2014, avec bah, justement des photos, du texte, etc. C'est vraiment un livre, ce n'est pas juste un artbook.
J'espère que ça parlera de la dernière version comics qui sort chez Boom, qui est excellente, de Robocop, qui est un ongoing actuellement, et j'en ai parlé dans le premier numéro, et c'est vraiment toujours aussi bon.
Ça, je ne sais pas parce que je n'ai pas eu le bouquin, mais en tout cas, c'est écrit par Callum Waddell. Et un autre monument de la culture cinématographique, il s'agit bien sûr de John Carpenter. C'est un bouquin qui s'appelle On Set with John Carpenter en hardcover. Ça vaut $30, c'est toujours chez Titan, et qui va reprendre justement des photographies du monsieur sur le plateau, notamment
à poil aussi, hein, à poil, John films, Carpenter à poil, avec ses moustaches et tout et ses cheveux blancs. Là.
Il y a des interviews, il y a du matériel exclusif, ainsi que des interviews, bien sûr, du cast et de l'équipe technique. Et justement, ça va parler principalement de ces films les plus connus comme Halloween, Halloween 2, Fog, Christine et Escape from New York, donc savoir New York 97
Christine,
en français.
Oui, et The Thing, peut-être.
Apparemment, dans ce bouquin-là, non.
Oh, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire.
Ça ne parle pas non plus des aventures de Jack Burton. Hein.
Oh oui, mais enfin, les aventures de Jack Burton, c'est tellement what the fuck, tellement...
Non, c'est trop bien.
Big Trouble in Little China est un des meilleurs
c'est
films.
C'est totalement à part, par contre.
Et c'est un film en plus qui est disponible sur Netflix. Faites-vous plaisir, matez-le, quoi. Matez-le,
ouais,
c'est
moi, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, c'est con, il n'y a pas The Thing. Il faudrait qu'il rajoute The Thing.
Il n'y a pas assez de John Carpenter sur Netflix, je suis d'accord.
Bon, il n'y a pas assez de pas, de plein de trucs.
Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Il y a tout
pour
un bac catalogue à rajouter qui est monstrueux, pourtant.
Bah, surtout au niveau cinéma. Hein. Franchement, au niveau série télé, encore, il y a de quoi faire. Ça va encore, mais alors l'offre ciné... Enfin bon, on parle tellement de Netflix, allez, passons à autre chose.
Allez, on continue et on termine notre émission avec Marvel maintenant. Marvel, et on démarre avec toi Bruno qui va parler de Wolverine Legacy numéro 2. Tu te fais mal après avoir été voir le premier qui était pas top?
Alors, déjà le premier, je l'avais trouvé moyen, surtout graphiquement, puisqu'au niveau du scénario, j'avais trouvé ça quand même assez intéressant. C'était, comme j'avais dit, un épisode un peu alpha. Là, on va revenir...
C'est bien ce que j'ai dit, pas top, j'ai pas dit nul, j'ai
dit
pas top.
Mais c'est pour ça que je continue, parce que l'histoire m'intéresse. Et dans ce numéro, là, dans ce numéro 2, qui est écrit par Tim Seeley, avec des dessins de Ariella Cristantina, on va s'intéresser au personnage de X-23, Et on va découvrir ce qui lui est arrivé avant justement d'être confronté à la menace qu'on a vue dans le premier numéro. Et on va voir comment elle a réagi après avoir appris la mort de Wolverine. Donc ça nous donne droit à des scènes plutôt bien écrites dans la Jean Grey School où en fait elle a du mal à contenir sa rage et sa colère après la perte de cette figure paternelle qui mine de rien ça a beau être elle a beau avoir été clonée sur Wolverine, c'était quand même un peu comme un père pour elle.
Bon, un père, c'est un drôle de relation avec son père, hein, avec un père avec lequel elle a un petit peu fricoté aussi. Hein. Elle avait envie de faire des choses avec papa. Hein.
Et tu sais, le complexe d'Oedipe, c'est pas que chez les garçons. Hein.
Et donc
oui,
en fait,
oui, mais bon, ça l'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte quand même. Hein. C'est pas.
Et ce
En même temps,
numéro,
elle a
en
jamais
fait,
été vraiment bébé, quoi.
c'est justement ce numéro l'occasion un petit peu de revenir sur sa carrière, sur son histoire, ce qui lui est arrivé, par les périodes sombres qu'elle a vécues. Et on va la voir justement quitter la Jean Grey School pour essayer d'aller noyer son chagrin. Elle va au Canada pour ça. Elle va dans les bars et tout. Elle commence à boire un peu, à picoler. Et elle va être
Genre à la Wolverine et tout, à la Logan et tout.
C'est ça, c'est ça. Et elle va être
Mais quel
confrontée.
est
Elle se laisse
l'intérêt de
pousser.
picoler quand t'as un facteur auto-guérisseur, quoi,
Elle se laisse
putain.
pousser la barbe.
Non, elle ne se laisse pas pousser la barbe, mais elle va être
Et les
confrontée
flaquettes.
à un groupe de vilains
Oh.
assez bizarres.
Oh.
Euh,
Oh, les
c'est
vilains.
c'est des vilains, ils sont moches, mais
Ils sont méchants.
ils ont des motivations assez étranges. Je vous invite à lire le comics pour savoir ce qu'ils veulent faire. Mais ce sera l'occasion pour elle de faire la connaissance d'un ancien membre d'Alpha Flight, qui était un ancien mutant qui avait perdu ses pouvoirs et qui
Buck.
malgré la perte de ses
Bon, je le
pouvoirs
connais déjà.
continue à vouloir faire le bien. Et
Buck va très bien, rappelle-toi, il était dans X-Force.
non,
Enfin, dans Uncanny X-Force, pardon.
c'était pas Pug. Donc ça pareil, vous
Puck.
Puck, pardon, c'est le petit nain Puck. Et donc
Allez, bonjour le pléonasme.
et donc en fait c'est l'occasion lors de cette rencontre entre ces deux personnages de voir un petit peu l'évolution et de faire un peu avancer le personnage de X-23 et voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit. Graphiquement, alors encore une fois, c'est vraiment pas la partie graphique qui fait le côté positif de ce comics. C'est pas très très beau. Il y a des belles planches par moment, mais c'est assez moyen, on va dire, dans la globalité. Mais en tout cas, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un bel hommage à Wolverine. Et pour les fans de X-23, c'est à lire. Donc pour moi, c'est un check-it.
Continuons avec toi, Benny, qui va nous parler de New Warriors numéro 11.
Oui, alors New Warriors numéro 11, cette série qui était fun et fraîche à ses débuts et qui là maintenant est devenue un truc pas terrible, terrible. Christopher Yost est au scénario avec Eric Burnham et Marcus Tau est au dessin et voilà, on a une colorisation de Roots Redmond. Alors c'est simple, cette équipe de New Warriors, nouvelle mouture, face aux Célestes. Attends, si je me gourre pas, je sais même plus d'ailleurs quel est. Non, les Éternels, pardon, les Éternels qui ont été créés par les Célestes. Voilà, c'est les espèces de New Gods à la Marvel, quoi, en fait, pour résumer. Et donc il suit une espèce de combat avec le maître de l'évolution, hein, qui est là aussi. Ma foi, c'est pas super passionnant. Et j'avais l'impression de lire un truc un petit peu narré à la manière d'un épisode dans les années 90. C'est vraiment un épisode, on a l'impression, tiré d'un Strange, quoi. Donc, bon, c'est sympa pour la petite touche nostalgique, mais ça fait vraiment rétro. On a l'impression que c'est sorti il y a 20 ans, cet épisode. Voilà, c'est pas spécialement inspiré, il se passe pas grand-chose. Voilà, on est un petit peu au point de départ de, enfin voilà, au début de l'épisode, on est un petit peu pas plus avancé à la fin, quoi. J'ai envie de dire, ça tourne en rond. Bon, et
Tu
puis apparemment c'est bientôt fini,
disais que
donc.
c'était fun et frais, maintenant c'est devenu triste et périmé, c'est ça?
Ben oui, non mais c'est ça qui est dommage, quoi. Je reconnais plus la série. Le premier arc était sympa. J'avais laissé un peu tomber et puis là j'y reviens alors que ça va bientôt se terminer et je me rends compte que c'est tout pourri là, vraiment c'est
Ça
pas terrible.
s'arrête au numéro 12, effectivement.
Ouais, et bon, je sais pas, alors peut-être qu'ils ont lâché l'affaire parce qu'ils savaient que ça allait s'arrêter, donc ils avaient plus la voilà le le comment dire, la flamme n'était plus là. C'est voilà, bon, c'est dommage, hein, parce que en plus il y avait vraiment du potentiel et c'était vraiment une équipe sympa. Bon, encore un titre qui n'aura pas fait long feu.
Comme beaucoup chez Marvel ces derniers temps, hein, les titres font 12 épisodes, quoi.
Ben ouais. Bon, alors là, franchement, ça va être un. Bah, non, ça va être un pass. Honnêtement, c'est l'épisode qui ne sert à rien. J'ai envie de dire, allez voir le dernier, à la limite, quoi. Mais bon, si c'est écrit pareil, en plus, c'était, je me suis vraiment emmerdé en faisant cette lecture.
On va passer à la suite, une lecture que tu as zappée puisque tu n'avais pas aimé le premier. Bah écoute, tu as tout à fait raison de zapper, si tu n'aimes pas. Il s'agit
À
de...
chaque fois, j'aime bien, tu te sens obligé de le dire, tu sais,
Non
que
mais
oui,
c'est aussi pour
ne le
rappeler
dis
au
pas
lecteur.
si tu n'aimes pas.
Ben oui, non mais voilà, c'est aussi pour rappeler au lecteur que ben, le meilleur moyen de d'arrêter les séries pourries, ben, c'est pas de
C'est de
continuer à
ne
les
pas
acheter,
les
quoi.
lire.
Voilà, non mais clairement, voilà, votre voix compte et votre voix, c'est simplement n'achetez pas. C'est tout simple. Axis numéro 3,
Ah,
fin
faites-moi rêver,
du
faites-moi rêver.
premier chapitre, du premier livre qui s'appelle The Red Supremacy. Cette fois-ci, c'est écrit bien sûr par Rick Remender, mais on a un petit changement au dessin. Il s'agit de Lainil Francis Hugh, encré par Gary Alan Gulen, qui arrive au dessin avec une colorisation de Matt Milla, Laura Martin et Edgar Delgado. Eh bien, une fin d'épisode. Alors, une fin de premier chapitre déjà sous de très bons auspices. Au dessin, on est sur du Lainil Francis Hugh, c'est beaucoup mieux que Adam Kubert.
Oui, je suis d'accord. Même si Kubert c'était bien,
C'était sympa, mais c'était pas son meilleur travail.
mais là c'est quand même plus impressionnant et plus sympa, quoi.
Rappelez-vous à la fin du numéro 2 qui était sorti la semaine dernière, Magneto était parti, avait laissé Tony Stark en plein combat au moment où bah, ça avait commencé à sentir le roussi un petit peu. Et revenait à la fin de l'épisode triomphant avec toute une nouvelle équipe, chose qu'il avait été démarché dans l'épisode 11 de Magneto qui était sorti la semaine dernière, avec aussi un lien avec la série Loki Agents of Asgard, toutes les deux étant March to Axis et étant aussi tie-in à Axis maintenant. Eh bien Magneto revient avec une équipe de super-vilains. Le plan du Red Skull était d'utiliser la mémoire de Tony Stark pour créer des sentinelles à toute épreuve. Sauf que Tony Stark avait des fichiers sur tous les super-héros, mais pas sur les vilains. Il avait pensé à tous les moyens de les combattre, tel un Batman, mais pas pour les super-vilains, évidemment. Donc forcément, Magneto a utilisé cette idée et a été s'entourer d'une fine équipe, hein, Deadpool, Doctor Doom, Carnage, Hobgoblin, Absorbing Man, Enchantress, Loki, Sabretooth, Jack-O-Lantern et Mystique.
Ouais.
Du beau monde,
Oui,
du
du
beau
beau
monde.
monde, oui,
mais c'est toujours un peu stupide, hein, je trouve, cette idée qu'il n'ait même pas pris le temps d'étudier les
Non, non,
super-vilains
c'est
pour.
pas
Non,
ça.
ça remonte à l'idée de Civil War.
Oui, non, mais puis c'est surtout en fait
Qu'importe,
dans la
pourquoi il
conception, en
l'a-t-il pas fait
fait,
avant?
c'est surtout la conception des sentinelles. C'est-à-dire que Red Skull a manipulé Tony Stark pour qu'il construise des sentinelles
Pendant
qui,
ses heures de sommeil.
et c'est des sentinelles qui s'attaqueraient aux super-héros. Il n'a pas rajouté les informations sur les super-vilains dans ses sentinelles, se disant que les super-vilains n'allaient pas s'assembler pour lutter contre lui. Je veux dire, les super-vilains, normalement, ils s'attendaient à ce qu'ils viennent lui lécher les bottes et à être d'accord avec lui pour se partager le monde, quoi. Sauf que
Non, mais
là, ça se passe pas vraiment comme ça.
ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi durant Civil War, s'être fait chier à trouver toutes les faiblesses des super-héros, si jamais avant il a fait le même travail sur les super-vilains,
Oui, mais
je trouve
comme
ça
vient de le
crétin,
dire
quoi.
Bruno, c'est exactement ça. Le Red Skull ne s'attendait à une opposition des super-héros et non pas une opposition des super-vilains. Il pensait que le fait de dominer le monde, enfin, tu sais, c'est les
Non mais
super-vilains,
c'est
ils
pas
sont
par
tous un
rapport au
peu
Red
cons.
Skull, c'est pas par rapport au Red Skull que je dis ça, c'est par rapport à
Oui,
Tony
mais
Stark.
là, la
C'est
menace, elle
non mais c'est
est.
le Red Skull qui a construit les
Ouais.
sentinelles en utilisant la mémoire de Tony Stark. Il a manipulé Tony Stark pour qu'il construise ses sentinelles pour lui. Je
Oui,
pense que t'avais pas dû comprendre ce passage-là dans le
mais
premier
si, mais
épisode.
je vous parle de Civil War, je vous parle de du
Mais
moment.
on s'en fout de Civil War,
Oui,
c'est parce
ben
qu'il nous intéresse.
tu sais, dans la Avengers Mansion, ils doivent avoir des files sur tous les vilains aussi, quoi. Mais c'est juste que là, le Red Skull s'en est pas basé. C'est pas basé là-dessus
Mais
pour.
les fichiers n'étaient même pas inscrits sur un ordinateur, ça a été dit dans le premier épisode, ce n'était que dans la tête de Tony Stark, et ayant classifié ces documents, il les a aussitôt détruits, mais il lui restait toujours dans sa tête la mémoire de les avoir écrits. Et c'est ça qu'a utilisé Red Skull pour faire ses sentinelles.
Voilà.
Voilà, c'est tout. C'est juste le plan.
D'accord.
L'intérêt de ce numéro, c'est donc voir les super-vilains faire le travail des super-héros. avec une drôle de façon de faire.
Oui,
bah, et surtout, c'est un petit peu le Dark Reign, quoi. C'est les super vilains qui font une équipe de super héros, quoi, en quelque sorte.
Oui, enfin, c'est oui et non. Bah, oui et non, en fait.
C'est surtout pour un acte vraiment limité à cette grosse bataille contre Red Onslaught. Voilà, c'est pas censé durer, quoi. C'est vraiment là le truc, c'est
une alliance de circonstances pour préserver le monde, quoi.
Voilà, le truc, c'est que là, c'est quand même Red Skull. Red Skull, c'est quand même le méga raciste nazi. C'est-à-dire que même du côté des super vilains, il a des ennemis. Tout le monde n'est pas fan de ce qu'il a envie de faire avec les avec le monde. Et bah, surtout
déjà,
avec les
tous
mutants.
Les mutants sont une espèce inférieure. Voilà.
Et donc effectivement, on en parlait. La confrontation Magneto Red Skull, c'est quelque chose qu'on attendait. Ça a eu lieu, alors ça a donné naissance justement à ce Red Onslaught. Bah là maintenant, Magneto essaye quand même de réparer les dommages.
Comme il peut, oui. On a un Deadpool qui est plutôt pas mal écrit, hein, par Remender, qui commence à avoir l'habitude du personnage. Le mec est complètement fou. Le mec ne se voit pas comme un super vilain, mais veut faire partie des Avengers. Absolument, pour lui, voilà, c'est. Je suis pas un super vilain, je suis un super héros. Moi, attention.
Des scènes excellentes. Et enfin, ça rappelle Uncanny X-Force et les grands moments qu'il y a eu avec Deadpool.
Je trouve ça aussi un peu poussif, le côté ouais, Red Skull, c'est quand même le pire de tous, quoi. Je suis désolé, Carnage n'est pas mieux que Red Skull. C'est bonnet blanc à blanc bonnet, quoi, franchement.
Carnage est fou. Red Skull ne l'est pas. C'est ça la différence.
Red Skull veut dominer le monde, il veut...
Bah, il est fou quand même, quoi. Franchement, il est pas
non,
saint
d'esprit. Il est saint d'esprit. Il est juste animé par une idéologie totalement abjecte. Et c'est ça qui le rend dangereux. Parce qu'il n'est pas fou. Alors que Cletus Kasady est quand même un mec, un psychopathe certes, mais un fou. Carnage est quand même, enfin le symbiote en lui-même est déjà aussi pas mal taré, ce qui donne une personnalité complètement dingue. C'est un tueur psychopathe. Le Red Skull n'est pas un tueur psychopathe. Le Red Skull est un tyran. Le Red Skull est quelqu'un qui veut dominer le monde. Carnage ne veut pas dominer le monde, il veut juste le tuer. Voilà, c'est ça. Et les moyens d'un mec qui est un tyran sont beaucoup plus importants que un simple mec tueur psychotique qui veut s'allier avec personne, de toute façon. Parce que voilà. Carnage passe tout le bouquin à dire, de toute façon, quand ça c'est fini, je vais tous vous tuer les uns après les autres.
Voilà.
À tous ses coéquipiers de circonstances. En disant, bah tiens, toi, Sabretooth, j'avais prévu de te buter. Là, t'es sympa, mais t'inquiète pas, après, je te réglerai ton compte, quoi. Donc, le mec est taré. Le Red Onslaught ne l'est pas. Enfin... Il est fou, mais...
Ses motivations sont folles, mais...
C'est pas de la folie, ouais. C'est ça le problème, c'est qu'il est saint d'esprit, en fait. Il est juste fou pour des gens normaux, quoi. Mais il est saint d'esprit. Tout le monde a son petit rôle à jouer, et le salut viendra-t-il ou pas? Enfin, on va pas trop parler de la fin, puisque de toute façon, on donnerait trop de pistes. Mais en tout cas, il y a clairement une scission dans les vilains, comme dans les gentils à la fin de cet épisode.
Et j'ai adoré la conclusion de ce premier arc. Effectivement, ça y est, on voit vers où on va. On nous parlait d'inversion, on comprend ce qui va se passer. Et là, c'est logique et c'est bien amené. J'attends énormément la suite maintenant parce que ça n'a pas été amené de la façon dont j'avais peur que soit le Red Skull qui manipule tout le monde. Là, c'est un peu plus subtil. Et j'ai trouvé la fin vraiment excellente avec un statu quo qui change complètement et
des personnages qui changent complètement.
Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas tout l'univers Marvel qui est concerné, c'est les personnes qui étaient présentes lors de cette bataille. Et du coup, bah ça va créer des soucis et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour commencer un event. Bah c'est parfait, et je trouve que c'était trois.
Et surtout qu'on l'a eu en 3 semaines.
Et oui, en 3 semaines, on a eu quand même une grosse bataille qui aurait pu faire figure en fait de conclusion de crossover presque. Là, on commence directement avec la grosse baston, et là, on part sur un truc assez inédit. Moi, j'attends qu'une chose, c'est de lire le numéro 4 parce que.
Enfin, souvenez-vous d'AVX où c'était pareil. Au début, on avait la grosse baston Avengers X-Men, hein, et puis après, on partait
sur
autre
chose.
Ouais, mais
c'était pas fait de cette façon-là.
Je pense que c'est volontaire de nous avoir placé cette grosse baston au départ. On savait très bien que de toute façon, ce statut de Red Skull, de Red Onslaught, qui détruit tout, ne pourrait pas durer 9 épisodes.
Ah ouais.
C'était impossible.
Oui. Oui.
Donc on savait très bien que cette petite première partie d'histoire se terminerait à la fin du premier chapitre. C'est le cas, vous verrez de quelle manière. Et on va partir sur autre chose dans le même crossover.
Et Benny, tu fais bien en fait de parler d'Avengers vs X-Men, parce que mine de rien, c'est quand même un peu, il y a pas mal de parallèles à faire entre ces deux séries. Sauf qu'il y en a une qui était écrite par Bendis et l'autre écrite par Remender. Et effectivement.
Non, souviens-toi, c'était écrit par beaucoup plus de monde.
Oui, c'est vrai que ils étaient trois, mais.
Par
ils
les
étaient
cinq.
Tous les architectes.
Mais en tout cas, Ed Brubaker, on avait aussi.
Il n'y avait pas Remender, je crois, à l'époque, encore dedans.
Non, il y avait Jason Aaron, je crois, effectivement.
Jason Aaron, il y avait Brubaker, il y avait Bendis.
Hickman aussi.
Hickman. Et le dernier, je ne sais plus qui c'est.
Fraction.
Ouais. Et Remender n'y était pas, et à notre grand étonnement à l'époque.
Mais justement, il va y avoir des conséquences en rapport justement entre les conflits entre les Avengers et les X-Men, c'est intéressant.
Justement, enfin, ça revient sur le devant de la scène, ça.
Et ça
notamment
fait,
dit par un personnage.
C'est le titre Avengers vs X-Men Axis, en fait.
C'est Avengers and X-Men.
Ah oui,
attention.
Avengers and X-Men.
Et mine de rien, à la fin de ce numéro, c'est un changement. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui changent pour les X-Men, avec des personnages qui subissent des transformations. Et pour les Avengers, également quoi. Et tous les nouveaux titres qui vont débarquer bientôt. Maintenant, on commence à comprendre comment ça va arriver, le super-héros Iron Man et compagnie. Tout ça va découler de ce numéro 3 de Axis. Donc, ce première partie d'Axis est vraiment très importante pour placer l'univers Marvel pour les quelques mois qui viennent.
J'irai peut-être lire le 4 pour voir justement la première partie d'inversion et voir ce que ça donne quoi. Et voir si finalement ça m'intéresse.
C'est Neil Francis Yu encore au dessin pour le 4 et je pense que ça sera sympa quoi. Mais en tout cas moi j'ai adoré ces trois parties.
Ah, très très bon.
Et ça a failli être mon coup de cœur moi parce que voilà j'étais vraiment pris dedans et j'ai bien aimé effectivement tout ce qui était dialogue et les interactions entre les persos étaient bien fun. Le Deadpool était excellent comme tu l'avais dit mais il y a plein d'autres scènes aussi qui étaient cool.
Mm-hmm. Mais chaque petit personnage a son petit moment quoi. Ouais. Remender est vraiment apte à gérer un très très gros cast. Il arrive quoi.
Et puis voir Remender retravailler avec le personnage d'Evan qu'il avait introduit dans Uncanny X-Force, il conclut un peu son Uncanny X-Force dans Axis quoi. Et il me tarde de voir ce qui va se passer après avec tout ça. Quoi.
Et j'ai hâte de voir le sort de ce personnage.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, ouais, gros bail.
Ouais,
Axis commence très bien pour un event qui, je le rappelle, me faisait extrêmement peur au départ. J'ai toujours très peur de cette partie Inversion. J'ai peur que ce soit un peu trop artificiel, mais on va voir. On va voir comment ça va tourner.
Ouais.
On termine notre partie Marvel avec une série dont on parlait assez peu, All New Invaders, Bruno.
Oui, donc c'est écrit par James Robinson avec des dessins de Steve Pugh. J'ai rattrapé mon retard sur All New Invaders et j'ai vraiment adoré ce que j'ai lu. Donc j'ai eu envie de vous parler de ce numéro 11. C'est dans la continuité, hein, c'est toujours aussi bien, j'ai pas été déçu. On s'intéresse toujours à cette équipe qui est formée de Namor, Winter Soldier, la première torche humaine et Captain America. On a toujours cette qualité de James Robinson à vraiment faire un amalgame de la continuité à la fois du passé et de ce qui se passe en ce moment puisque il est capable d'y mettre également plein de références à ce qui se passait dans Avengers, à ce qui se passe dans Captain America, c'est-à-dire qu'on a le Captain America vieux, on a toujours Captain America qui en veut à Namor par rapport à ce qui s'est passé dans New Avengers, on a des références aussi à la mort de Nick Fury par exemple, enfin voilà, il arrive dans son numéro juste à travers quelques petits dialogues à placer plein de choses sur la continuité et il le fait de façon pas du tout artificielle et au niveau du scénar là on a le personnage de Jim Hammond qui a été contaminé par un virus qui avait été propagé par des Deathlok et en fait il est en train de lutter entre sa partie qui est très humaine puisque ça a beau être un cyborg c'est peut-être le plus humain des humains puisqu'il est très 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 sympathique enfin il met en avant la protection de l'humanité et de l'autre côté, il y a sa partie cybernétique qui commence à lutter à l'intérieur de son corps. Et voilà, en fait, c'est l'occasion dans ce numéro, en fait, d'avoir une réunion des Invaders et d'essayer d'aider ce pauvre Jim Hammond à surmonter ça. Et c'est assez touchant, c'est très beau ce qui se passe. J'ai bien aimé. Et il y a toujours ces petits fils rouges qui concernent une intrigue avec l'espèce martienne qui a peut-être l'intention d'envahir la Terre. Dans le précédent numéro, on s'est rendu compte qu'il y avait un revendeur d'armes qui en fait était un martien qui s'était caché à travers les humains. Et voilà, on a pu le voir dans les sollicitations, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc voilà, C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup cette série et les dessins de Steve Pugh sont très 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 bons. Donc pour moi c'est un gros bail. Je ne sais pas si All New Invaders est publié en français. J'ai pas, je me rappelle plus.
Non, pas encore, je crois pas.
Mais j'espère que ce sera publié prochainement parce que c'est vraiment très sympa.
Oh bon, ce sera publié, Panini publie
Oui,
tout,
publie
hein,
tout quoi.
franchement. Je suis pas certain que ce soit publié encore,
Mais
mais
peut-être que ce sera publié en kiosque, j'espère, parce que ça mériterait d'être lu par le plus grand nombre.
Justement, j'ai une petite question concernant ce que tu parlais tout à l'heure, hein, tu parlais de Deathlok. Est-ce que tu penses qu'il est en train de préparer le terrain pour la nouvelle série?
Non, pas vraiment, puisque c'était une intrigue qui faisait intervenir les Deathlok, mais c'était plus le méchant qui avait recruté tous les Deathlok du multiverse pour contrer les Invaders. Il n'est pas fait référence au nouveau Deathlok qu'on avait entreaperçu dans un petit tie-in à Original Sin. Donc là, c'est vraiment juste, il s'est amusé avec tout ce concept des Deathlok en faisant revenir plein de différents univers. Mais voilà, après en même temps il prépare le terrain pour faire arriver quand même un. Enfin, voilà, les gens lisent des choses sur les Deathlok, ça les intrigue peut-être
Bah,
par la suite
rappelons
quoi.
qu'on a cette série Deathlok
Ouais.
avec une autre version du personnage. C'est pour ça que je me posais
Ouais,
cette
oui, oui.
question si, si justement il n'était pas en train d'essayer de faire un petit lien
Peut-être, peut-être.
avec tout ça.
En tout cas, moi j'aime vraiment ce qu'il fait, que ce soit sur Fantastic Four ou All New Invaders, on a l'impression qu'il s'éclate là chez Marvel. Mais les titres ne se
Mais
vendent
c'est
pas
bien.
très bien, par contre.
Malheureusement.
Ouais. Mais bon.
Malheureusement, on sait déjà que son Fantastic Four va dégager. Sur quoi ira-t-il
Ouais, au New
ensuite?
Invader, je suis pas sûr que ça va durer très longtemps non plus, parce que ça se vend pas très très bien.
Mais ouais, ça se vend pas très bien, hein. Ou alors à moins qu'on lui laisse parce que c'est James Robinson. Enfin, on enlève bien au New X-Factor à Peter David.
Mais bon. En tout cas, pour moi, c'est un bail.
On termine notre partie avec les TP de la semaine. Deux petits TP, enfin deux petits, un petit TP et un énorme bouquin chez Marvel. On va commencer par l'énorme. Il s'agit de Alias Omnibus qui ressort une nouvelle impression puisque bah, c'était quelque chose qui était devenu assez difficile à trouver. C'est au prix de 100$ et ça reprend l'ensemble de la série Alias par Brian Michael Bendis et Michael Geddos et David Mack. Donc les 28 épisodes de la série ainsi que le What If Jessica Jones, pardon, avait rejoint les Avengers.
Ouais.
Ah donc, bah pour ceux qui voudraient le trouver, qui n'arrivaient plus à le trouver, le voilà à nouveau disponible.
Et qui était sorti en français aussi.
Et qui était
Ouais.
sorti en français aussi, voilà.
Qui est encore
Mais
dispo.
qui doit être quand même assez dur à trouver.
Non,
Ah
non, non,
non, non, tu
il est
l'as
encore
encore.
disponible, on peut encore en commander.
Ah oui,
Il n'est
d'accord,
pas en
carrément.
rupture. Il fait pas partie des omnibus qui sont en rupture.
Et
Alors que pourtant, c'est
le.
un très bon travail de Brian Michael Bendis, quoi. Peut-être un peu
Ouais.
plus en marge.
Ouais,
C'est vrai,
en.
peut-être un peu moins en vue pour les gens qui suivent
Ben.
l'univers super-héroïque plus classique.
Parmi les omnibus qu'on a vus récemment en France, c'est vrai que c'est l'un des plus intéressants quand même.
On termine notre partie TP Marvel avec le fameux Marvel le centième anniversaire qui sort en TP cette semaine au prix de 17$ et qui va reprendre les 5 one-shots de ce centième anniversaire de Marvel, le Fantastic Four, Spider-Man, X-Men, Avengers et Guardians of the Galaxy.
Ouais.
C'est en dents de scie, il y a des bons épisodes, il y en a des beaucoup moins bons.
Ouais. C'était assez moyen au final. Il y a deux épisodes qui surnageaient, le Gardien et le Avengers. Les autres, j'avais trouvé assez moyen.
Donc du coup, voilà, si vous avez envie de bah, justement de pouvoir les lire à peut-être un peu moindre coût que si vous les aviez achetés en single. Parce que je crois que c'était à au moins 4 ou 5
Ouais, il était
dollars
à 4
l'épisode, je me
dollars
rappelle plus.
l'épisode.
À 4 fois 5, 20, voilà, là il y a 17. Petite économie. Mais je pense que ça sortira
Oh,
en français dans un hors-série,
hors
ça.
série kiosque, hein. Ouais,
Je
franchement,
pense.
je pense.
En tout cas, si vous ne voulez pas attendre, il est disponible cette semaine. Voilà ce qu'on avait cette semaine comme review sélectionné. Pour ma part, que des bonnes lectures. Je suis vraiment très content. J'ai malheureusement pas eu le temps de terminer le She-Hulk, qui était assez long à lire, parce que c'était enfin la rencontre entre Matt Murdock et bah, She-Hulk, à la barre. Très très long à lire, malheureusement pas le temps de le finir avant cette émission, mais bon, voilà, c'est du bon, hein, de toute façon, vous pouvez y aller les yeux fermés.
Oh, cette blague avec Matt Murdock.
Oh putain, non, j'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès. Pour ta part aussi, hein, Bruno, je crois que du bon, hein, cette semaine.
Ouais, bah oui, franchement, j'ai bien choisi les titres que je voulais lire cette semaine.
Bunny s'est trompé, au moins sur un truc, les New Warriors.
Ouais, bah histoire de lire du Marvel et bon, bah ça m'a pas réussi encore une fois, hein, Marvel.
Ben ouais, Marvel, poum poum, le micro tombe quoi.
Ouais, c'est ça.
Marvel te fait bander mou du micro donc. Alors, il y avait d'autres titres chez Marvel cette semaine, évidemment, mais on peut pas parler de tout. On avait le début de la mini-série Axis of Goblins. J'ai pas osé m'y risquer, je dois avouer.
Je l'ai feuilleté.
Bah, moi, j'aurais dû, hein, peut-être.
Moi, je l'ai feuilleté, et c'est pas mal, et c'est à lire après le Axis numéro 3.
Tout comme, je me doutais, oui.
Tout comme j'ai feuilleté le Deadpool, et qui, c'est assez intéressant, puisque c'est à lire un petit peu en même temps qu'on lit Axis, puisqu'il y a toute la scène avec Iron Man qui est reproduite, où on en apprend un petit peu plus sur ce qui a pu se passer pendant Axis 3.
Donc, intéressant.
Les trois titres sont vraiment bien connectés avec Axis.
Voilà, en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine dose de review. D'ici là, comme d'habitude, suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, envoyez-nous des mails à l'adresse podcast@comiccity.fr. Et puis, bien sûr, vous retrouvez tous les anciens épisodes sur iTunes ou évidemment sur le site comiccity.fr, évidemment.
Fr, évidemment.
Mais quel connard!
Mais quel connard! <C'est vrai. rire>
On vous souhaite une très bonne semaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.
Ouais, allez, ciao, ciao.
Allez, ciao, ciao. And you're heading up to Wrecking Brisbane.